Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec un résistant qui s'appelle David Van Demelrick. Vous êtes bien connu sur les réseaux sociaux, David. Vous passez depuis des années avec votre avion, l'été notamment, au-dessus de la plage de la Baule, la fameuse banderole Macron démission. Mais c'est pas le sujet sur lequel je voulais vous avoir aujourd'hui. On vous a vu sur les réseaux sociaux à Kiev directement. Vous étiez en Ukraine, vous êtes filmé. Et vous avez rencontré ce qu'on appelle la résistance. Là-bas, vous n'avez pas été tendre avec Zelensky. Beaucoup de gens se sont dit, il a pris un risque fou, parce qu'on sait ce qui se passe en ce moment, surtout en Ukraine, avec l'opposition. Mais d'abord, j'ai envie de commencer pour que vous nous racontiez comment ça s'est passé, comment vous avez passé la frontière, comment vous y êtes allé, et comment sur place vous avez été accueilli.
Bonjour Yannick. La banderole destitution sur les plages, c'est évidemment pour donner du courage aux Français. Et le petit ULM, on peut pas le sortir tous les jours quand il fait mauvais. Moi, j'aimerais bien soutenir les agriculteurs. Et ça fait longtemps que j'aimerais soutenir les Ukrainiens qui sont en train de mourir un peu pour rien. Ils sont en train de mourir parce que on fait un lavage de cerveau depuis 30 ans financé par des fonds de Soros dans les livres, dans les écoles ukrainiennes. On leur fait un lavage de cerveau pour leur dire que l'Europe c'est bien et que la Russie c'est très mal. Mais ils ont tous des cousins partout, hein, dans tout le monde russophone, que ce soit en Biélorussie, en Russie. Et donc les Ukrainiens, moi j'en connaissais, que j'avais vu au début de la guerre, qui étaient excités pour la guerre, qui étaient à deux doigts de se porter volontaires. Et là, je suis retourné pour les voir, pour les soutenir un peu, pour voir comment ils allaient. Et j'ai été très surpris parce que ceux avec qui je m'étais fâché, parce que je leur disais qu'il fallait pas financer la guerre en faisant des dons, qu'il fallait pas se porter volontaire, eh bien, la plupart, ils ont fait marche arrière. Et ils disent, écoute, David, j'ai compris ce que tu disais, je me suis documenté, j'ai lu, j'ai compris. On a eu le cerveau complètement retourné par la propagande. On a cru tout ce qu'ils nous disaient à la télé. Et maintenant, on est en train d'envoyer nos maris, nos frères mourir pour rien. Et je dis, mais bon, très bien, qu'est-ce que tu fais? Ben, on peut rien faire. Parce que là-bas, la loi, évidemment, interdit de se déclarer pour la paix. Donc, j'ai pas pu publier d'interview d'amis. J'en ai une là qui était vraiment une excitation.
Je précise bien ce que vous dites, David Van Demelrick, qu'en Ukraine, on n'a pas le droit de se dire pour la paix, sinon on est emprisonné. Est-ce que certains vont dire que ça peut se comprendre pour un pays en guerre? C'est ce qu'on vous répond.
Mais non, parce qu'il y a une différence entre faire du sabotage et exprimer démocratiquement ses opinions. L'Ukraine est censée se battre, d'après la propagande, pour la démocratie. Et en fait, en Russie, si vous êtes pour la paix, vous êtes pour la paix. Bien sûr, la Russie, c'est pas le pays où la liberté est la plus extrême. Hein, donc, je pense pas qu'on puisse aller faire des grandes manifestations. Mais il y a une grande différence entre pénaliser des opinions et pénaliser du désordre. Et donc, en Ukraine, ce qui se passe, c'est que la plupart, pour survivre, ils vont crier « Gloire à l'Ukraine, gloire à nos héros ». Vous pouvez pas savoir si c'est sincère quand ils le disent. Non seulement ils ont pas envie d'être en prison, mais vu la pression collective, il faut pas avoir l'air d'un traître. Il faut pas avoir l'air. Donc il y a des millions, on le savait historiquement, des millions d'Ukrainiens qui sont carrément pro-russes et qui se sentent russes depuis toujours, et ils sont condamnés au silence. Donc évidemment, du coup, il y a une psychose collective qui fait qu'on peut pas parler. Et donc c'est vrai que j'ai voulu un peu prendre la parole, tous ces Ukrainiens, ces millions d'Ukrainiens qui ont pas droit à la parole. Et puis comme il y avait des macronistes qui disaient « Mais David, t'es complètement un mytho sur les réseaux sociaux, les macronistes ils veulent toujours faire peur », et puis ils utilisent le mensonge. Donc ils disaient que j'étais pas en Ukraine. Donc j'avoue, j'ai pris le risque, j'ai fait un live depuis la place Maïdan. Bon, c'est vrai que pour diminuer le risque, j'ai fait ce live 24 heures avant le début de mon exfiltration du pays. Voilà, parce que les macronistes.
Vous avez triché de 24 heures sur cette diffusion, c'est tout. Voilà, par sécurité, c'est bien cela.
Non, j'ai pas diffusé. C'était vraiment un live pour prouver que j'y étais, pour prouver que
ce n'était pas enregistré. Ce que je voulais dire, vous avez pas fait ça 24
heures. Oui, c'était en direct.
D'accord. Là, vous avez pris un risque fou.
C'est-à-dire que concrètement, je suis pas encore quelqu'un qui fait les plateaux de télévision en France. On sait qu'en France, il y a de la censure. Il m'invite plus. Il y a 10 ans, j'étais invité partout. Et là, Macron a dû passer des coups de téléphone. Je suis invité seulement chez Hanouna pour qu'il me ridiculise. Voilà. Donc là, en France, il y a de la censure, ce qui fait que je suis pas spécialement connu encore. Hein. Je remercie tous les Français qui ont vu ma banderole et qui en ont parlé. Mais on sait bien qu'il y avait de la censure. Donc, je prenais pas un grand risque parce que les services secrets ukrainiens, ils sont occupés à traquer toute la résistance, tous les gens qui donnent les positions des usines militaires pour les faire bombarder par des missiles russes. Voilà, il y a cette résistance en Ukraine qui reste vraiment souterraine, et donc ça prend beaucoup de temps, je pense, de les traquer. Et donc moi, je me suis dit, voilà, je suis un Français, les Ukrainiens ne parlent pas spécialement français, ils en ont un peu rien à faire de ce qui se passe en France. Donc les macronistes sont excités et ils ont écrit immédiatement à tous les services secrets ukrainiens en disant il y a un collabo, David est un collabo. Voilà, moi je suis pour la paix. Tout de suite ils ont les grands mots, mais ce qu'ils voulaient vraiment, c'était me faire emprisonner, tous les macronistes qui ont fait ça. Me faire emprisonner, voire plus, parce qu'il y a parce un que, journaliste.
Alors justement, j'allais vous en parler, David Van Demelrijk. Le dernier qui s'est amusé à faire ça en Ukraine, sous le régime de Zelensky, a été torturé et tué. C'est un journaliste américain, Gonzalo Lira.
Alors, on va faire comme avec Navalny, on va rester prudent. Il est mort en prison. Hein, c'est pas la même chose, on sait pas s'il a été tué.
Enfin, alors, va dire qu'il est mort en prison, mais il a été torturé. Voilà. Ça a été reconnu, Gonzalo Lira, qui est mort en prison, peut-être comme Navalny, d'un caillot de sang, parce que peut-être avait-il été vacciné avant.
C'est-à-dire qu'en Ukraine, ils mettent des entretiens de manière assez musclée. Voilà, ils tabassent la personne jusqu'à ce que la personne change d'avis. Il avait écrit Gonzalo Lira. Et je sais que Gonzalo Lira, il avait été plusieurs fois arrêté et que les Ukrainiens voulaient qu'il se taise. Et que donc les entretiens à chaque fois qu'il l'arrêtait étaient très musclés. Mais vous savez, on a un peu la même chose en France. Hein, des arrestations dans le but de vous faire taire, c'est très courant. Mais enfin bon, c'est vrai qu'en France, quand on est en garde à vue, les policiers ont encore un peu d'honneur, donc ils vous tabassent pas. Ils vous tabassent avant. Voilà. Ils tabassent avant quand vous êtes dans la rue et qu'ils peuvent faire semblant que vous êtes débattu. Mais une fois que vous êtes en garde à vue en France, ça se passe pas trop mal. Hein. Moi, je dis à tous les Français qui ont peur, les policiers, ils appliquent en France, ils appliquent des ordres souvent illégaux. Ils font du grand n'importe quoi, ils matraquent. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont perdu un œil. Mais si vous êtes arrêté et que vous allez en garde à vue, là-bas, c'est pas très agréable, mais ça se passe encore à peu près bien. Les policiers ont encore un honneur en France, hein, donc je les félicite pour ça. Et voilà. Donc moi, j'ai pris ce risque. Et puis, voilà, j'essaie à les faire, hein, mais bon, c'est un peu la même chose dans mon ULM, hein, c'est dangereux, je peux avoir des hélicoptères qui me poursuivent, voilà, donc voilà, je me suis dit, il y a tous ces Ukrainiens qui sont en train de mourir au front, moi, si la seule chose que je peux faire, c'est de témoigner qu'il y a plein d'Ukrainiens qui veulent la paix, et bon, que c'est un peu dangereux, je vais prendre le risque, hein, je vais diminuer le risque autant que possible en partant du pays vite fait, maintenant je suis en Hongrie. Hein, un pays où on peut parler librement, voilà. Et puis c'est vrai que maintenant j'ai plus de risques. Maintenant, si j'y retourne et que je fais des entretiens en France, eh bien, les Ukrainiens finiront peut-être par me mettre sur la liste des personnes. Ouais.
C'est un événement. David Van Demelrijk est mon invité. Il a passé le week-end à Kiev. Il a rencontré l'opposition ukrainienne. Il a bravé il a mis en péril sa propre vie en se filmant et en critiquant le régime de Zelensky. On a vu ce qui est arrivé à Gonzalo Lira. Il y a une opposition de plus en plus forte en Ukraine. On a vu ces sondages circuler qui disaient que Zelensky, le soutien à la guerre n'était plus que de 16% en Ukraine. On voit ces photos partout de la milice qui ramasse les gens valides pour aller presque de force à la guerre. C'est l'enrôlement. Je parle sous votre contrôle, hein, cher David. Vous m'interrompez si jamais je me trompe. Quel est l'état d'esprit de ces Ukrainiens, des gens que vous avez croisés?
Les Ukrainiens, ils sont tellement inondés de mensonges partout, partout, partout. Vous savez, il y a un seul journal télévisé autorisé à la télévision qu'ils y croient encore un peu à la victoire. Et ils voudraient que ce soit les autres qui meurent, mais que l'Ukraine reste un grand pays. Enfin, je parle des Ukrainiens dans la tranche d'âge, en dessous de 50 ans, parce qu'au-delà de 50 ans, les papis, les mamies, ils ont vécu en connaissant leurs cousins de Moscou. Hein, c'est un seul grand pays. Et donc, il y a un fossé générationnel. Hein, les personnes âgées sont pour la paix. Et puis, les petits jeunes qui écoutent la propagande, ils sont pour la guerre, mais ils voudraient que ce soit les autres qui meurent. Et puis, petit à petit, la guerre, c'est quand même un grand traumatisme. Donc, la propagande, ça tient pas éternellement. Et les gens qui se sont posés des questions, Maintenant, non seulement ils sont plus très chauds pour la guerre, mais ils veulent plus que leur famille meure et ils sont plus prêts. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est que la guerre termine. Alors, ils comprennent, ils sont encore à plein d'incohérences. Ils aimeraient que la guerre termine demain avec une victoire, mais ils voudraient que la guerre termine. Alors, ceux qui sont pour la paix, vous parlez d'opposition, vous savez, il n'y a pas de démocratie en Ukraine. Zelensky, il a signé un décret comme quoi il n'y aurait pas d'élection présidentielle, et on en est resté là. Faut quand même comprendre ça, que dans tous les pays d'Europe, on ne dit pas que Zelensky a annulé les élections. C'est quand même formidable. Même, je veux dire, une guerre mondiale en Angleterre, aux États-Unis, dans tous les pays qui se battaient, ça n'empêchait pas les élections. Et Zelensky dit non, mais c'est pas. Vous comprenez, moi, je vais rester au pouvoir. Donc, on a un dictateur. Et du coup, il y a quand même quelques anciens opposants. L'opposition en Ukraine, ça se fait en général de l'étranger. Si on veut critiquer, on sort d'Ukraine, parce que sinon on peut se faire arrêter ou tabasser, on peut avoir un accident. Il y a eu un site internet semi-officiel des nazis ukrainiens qui...
Oui.
Les personnes disent régulièrement qui sont sur cette liste. Donc voilà, on en est à ce niveau de violence en Ukraine. Et donc l'opposition, non, il n'y a pas d'opposition constituée. Il y a des gens qui veulent la paix. Et puis, il y a des pro-russes qui essaient d'aider l'armée russe à libérer leur ville en appelant les services russes pour leur dire où sont les positions des stocks de munitions. Voilà. Alors, évidemment, c'est un jeu dangereux parce que les Ukrainiens, ils ont tendance à mettre leur stock d'armes pas loin de civils. Et quand un missile russe tombe sur un stock d'armes, ça fait des explosions épouvantables. Il y a des morts, voilà. Donc c'est vraiment la guerre, c'est horrible de toute manière. Moi, je soutiens pas la continuation. Si j'étais en Russie, je serais aussi pour la paix. Je serais pas pour qu'il aille jusqu'à Odessa, même si Odessa, voilà, les gens, ils veulent être libérés par les Russes.
Alors c'est intéressant ce que vous nous dites, David Van Emmerich, parce qu'on pourrait croire que si vous me parlez d'une résistance ukrainienne qui aide les Russes, qui donne des informations, si je faisais une analogie avec la Seconde Guerre mondiale, les gens vont dire c'est comme ceux qui aident les Allemands à la libération, on va s'occuper d'eux. Mais en réalité, vous dites que c'est plutôt ceux qui aidaient les Anglais et les Américains. Ce sont ceux-là, pour la libération.
Mais vous avez, si on veut parler d'analogie, imaginez demain la France s'effondre en tant que pays suite à une invasion étrangère qui se poursuit, et puis des pays qui ont toujours détesté la France en profitent et subventionnent des extrémistes qui font déclarer pour que ils prennent le pouvoir à Rennes et qui déclarent la Bretagne indépendante. Oui. Alors évidemment, c'est le rêve de certains Bretons.
Oui.
Mais tant que la Bretagne indépendante reste plus ou moins amie avec la France, la situation serait vivable. Il y aurait beaucoup de Bretons qui se sentent français et des Français qui se sentent bretons. Mais tout ça, c'est un seul peuple. La situation serait vivable tant que c'est la paix. Mais une fois qu'il y aurait des bases étrangères qui s'installent en Bretagne indépendante, en Bretagne libre, et qui commencent à manigancer à l'aide d'oligarques corrompus, des provocations et puis des bombardements des zones frontalières, la situation deviendrait invivable. Et au bout d'un moment, il y aurait des Français qui se diraient « bon, ben, on va libérer les Français qui sont en Bretagne ». Et la situation deviendrait extrêmement compliquée. Donc les lignes du jeu ne sont pas marquées qui est qui. Les gens, ils ont des cousins des deux côtés des frontières. Il n'y a pas de peuple ukrainien en dehors d'une minorité à Lviv. C'est des gens ukrainiens et qui ont des cousins russes. Ils sont tous mariés, ça fait 300 ans qu'ils vivent ensemble. Ils ont tous des cousins des deux côtés. Et c'est pas comme nous avec les Allemands. Le nombre de Français qui ont des cousins allemands, il est quand même très faible. Ça existe les mariages en Alsace, etc. Mais c'est pas la majorité. Alors que voilà, en Ukraine, les gens parlaient russe. Les gens se sentaient russes. Et il y avait une minorité qui a dit « on est ukrainien, on est indépendant ». Mais vous savez, comme l'URSS avait pas la cote, le deuxième référendum, parce que ça s'est passé un peu comme en France, ils ont eu un premier référendum et puis comme le résultat il a pas plu, ils ont fait une nouvelle consultation. Et dans la nouvelle consultation, ils disaient « est-ce que vous voulez qu'on sépare de l'URSS ?» Alors évidemment, les communistes ils avaient pas la cote, donc les gens ils ont dit « ok, on est indépendant ». Mais en réalité…
Ça voulait pas dire qu'ils voulaient rejoindre l'OTAN, c'est ce que vous voulez dire.
Alors d'une part, ils savaient pas c'est un avenir de guerre et de trafic, mais d'autre part, ça voulait pas dire qu'ils voulaient se constituer un pays ennemi de la Russie. Les gens, à l'époque et encore maintenant, se sentaient dans une grande famille. Alors maintenant, il se trouve, je me souviens d'une excité qui était vraiment pour la guerre, alors qu'elle était de famille russophone, que toute sa famille était russe. Maintenant, elle a changé de position parce qu'elle cache son mari. Mais à l'époque, son argument principal, c'était « David, tu peux pas comprendre. Toi, tu es déjà en Europe. Nous, on a envie de voyager aussi. » C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, ils se trouvent enfermés parce que l'Europe ferme ses frontières à la Russie. Et que donc, ils se disent, si jamais on était russe, on n'aurait pas le droit d'aller en Europe. Donc, c'est un peu l'Europe qui force les gens à, qui force les Ukrainiens à dire, bah, vous pouvez pas vraiment être russe, enfin, vous pouvez pas profiter du travail, du tourisme en Ukraine si vous choisissez le camp de la Russie. Donc, l'Europe a fait un chantage et les populations jeunes l'ont complètement assimilé. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de migrants ukrainiens qui ont choisi l'Europe pour les conditions financières, l'espoir de travail. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'il y a 3 millions d'Ukrainiens qui ont choisi volontairement de se réfugier en Russie.
Mais ça, on nous le dit pas. Ce qui est amusant, c'est la réaction de cette dame qui est pour la guerre, mais à partir du moment où c'est son mari qui est concerné, là, les gens deviennent contre la guerre. C'est un peu ce qu'on entend en France. Beaucoup de gens sont contre la guerre, sont pour la guerre, mais ils seraient peut-être moins d'accord si c'est leurs enfants.
Ben oui, et c'est toujours facile avec les enfants des autres. D'ailleurs, ce que vous remarquez, c'est que toute la classe dirigeante ukrainienne protège les leurs avec un niveau de corruption effroyable. Là-bas, grosso modo, si vous payez 7 000 $, même si vous ne faites pas partie de l'élite, si vous payez 7 000 $ à un centre de recrutement, vous serez exempté de recrutement.
On a des photos là-dessus, il y a eu des saisies d'argent liquide.
Ah oui, voilà, donc il y a une corruption effroyable. Et finalement, c'est les pauvres qu'on envoie mourir. Donc c'est vraiment la caricature d'une dictature. Les pauvres partent mourir et une caste dirigeante qui se fait du blé avec la mafia continue de cette fois-ci pour eux c'est le pactole, parce qu'avec tous les milliards qui sont envoyés là-bas, même les Américains n'ont pas pu envoyer des auditeurs. Les démocrates, ils font tout pour empêcher que les Américains eux-mêmes puissent contrôler où va leur pognon. Et donc tout ce pognon, tous ces milliards qui arrivent, ça fait une opportunité incroyable. Vous savez, le ministre de la Défense ukrainien, il faisait des contrats sur contrats où les prix étaient multipliés par 3. Alors comme ça, il y a de la marge pour tout le monde. Il y avait ce scandale qui avait été détecté par un journaliste. Le journaliste, après, il a été réduit au silence. Les œufs étaient achetés à 3 fois les prix du marché ukrainien. Donc tout cet argent dans ces tarifs, voilà, c'est un mécanisme bien connu de corruption pour ensuite qu'il y ait des pots de vin partout qui soient diffusés. Voilà. Donc pour eux, la guerre, c'est le jackpot. C'est la poule aux œufs d'or pour la caste dirigeante.
Oui, sauf qu'elle n'est pas au front. Alors, comment la population que vous avez croisée ce week-end à Kiev voit l'évolution de ce conflit ?
Ben moi, je ressens... vous savez, c'est compliqué, l'ambiance dans un pays en guerre. Surtout un pays en guerre où on n'a pas le droit de parler.
Beaucoup de gens qui mentent, voilà. Aussi, on ne peut pas le savoir.
Ben non, c'est pas, ils mentent. Ils se taisent, ils ont envie de penser à autre chose. Et puis, ils mentent au sens où si quelqu'un crie « Slava Ukraina », ils vont aussi le crier. Mais c'est un cri de survie. Moi j'ai eu beaucoup de mal. J'ai parlé à quelques personnes qui me faisaient confiance d'avant, voilà. Et c'était, j'y suis aussi allé il y a un an. Et il y a un an, ils m'en parlaient pas. Voilà, il y a un an, c'était vraiment le traumatisme était profond. Et là, le traumatisme commence à être suffisamment tellement grand, tellement profond, qu'ils ont eu besoin de se confier, de dire qu'ils voulaient la paix, de dire qu'ils en avaient marre, que les oligarques, comme ça, comme vous l'avez dit, ils sont pas au front et puis ils encouragent la guerre, voilà. Mais voilà, c'est nouveau. Par exemple, c'est vrai qu'on a vu une usine d'armes à Lviv exploser sans missiles russes et aussi un couple de nazis qui a brûlé dans sa voiture à Odessa. Voilà. Et c'est clairement pas des missiles russes qui sont tombés sur ces deux objectifs, donc c'est clairement des locaux.
Donc il y a une opposition, une sorte de résistance ukrainienne.
Il y a une résistance ukrainienne, mais c'est pas encore très grand. Vous savez, il y a des centaines de milliers de policiers qui font du... Enfin, les 200 000 policiers qui font aussi de la répression politique en Ukraine sont dispensés de tout devoir pour aller au front. Alors c'est la belle planque. Et leur seul devoir, c'est de traquer les éventuels opposants. Donc voilà, donc non, il y a une résistance, mais c'est vraiment encore tout petit. Il y a surtout des gens qui veulent plus de la guerre. Voilà.
Merci de ce témoignage, David Van Emmerik. Je rappelle que vous étiez le week-end dernier en Ukraine. Vous avez été rencontrer les Ukrainiens, parfois même rencontrer des résistants. Certains vont dire des collabos, ça dépend de quel côté on se place. C'est ça le problème de la sémantique. On va dire des Ukrainiens qui collaborent avec des Russes. Donc pour certains, ce sont des résistants, s'ils considèrent que l'Ukraine est occupée par l'OTAN, et d'autres, c'est des collabos, si on considère que l'Ukraine doit être libre. Chacun a sa vision de la chose. C'est ce qui est passionnant dans l'histoire. Vous avez vu ça au péril de votre vie en publiant cette vidéo remarquée au centre de Kiev. Votre vie a été menacée, d'ailleurs, sur Twitter.
C'est surtout que maintenant les menaces de mort peuvent éventuellement se mettre à application parce que les Ukrainiens, ils ne sont pas seulement en Ukraine. Et les Ukrainiens nazis ont été les premiers à déguerpir pour profiter des conditions de vie en Europe. Et la liste des gens à tuer est publiée par les Ukrainiens nazis. J'espère que. Je suis entre deux. Je suis partagé. Si ma parole porte, alors peut-être ça pourrait aider pour la paix. En prenant conscience qu'on est en train de sponsoriser la guerre et qu'il faut arrêter tout ça. Et d'un autre côté, plus ma parole porte et plus évidemment je serai moi-même soumis aux persécutions où que je sois. Voilà. Bon. Merci en tout cas.
C'est le jeu. Merci David Van Emmerik. Vous êtes à Budapest. Merci.